Passons à une petite analyse. Bah moi, ce que ça m'évoquait déjà, c'était que la psychanalyse permettait justement de donner un moyen aux patients qui viennent nous voir de les aider à se dépasser, de les aider à se dépasser, et que ce dépassement était donc un moyen d'être dans le prolongement d'eux-mêmes. Souvent, les gens en psychanalyse, ils sont, enfin, au moment où ils viennent nous rencontrer, une de leurs grandes inquiétudes, c'est de se dire, mais ça va me changer, je vais être quelqu'un d'autre si je fais cette psychanalyse, je vais être quelqu'un d'autre. Et non, évidemment, on ne devient pas quelqu'un d'autre. On devient la personne qui, justement, grâce au dépassement que la psychanalyse permet, eh ben d'être un peu plus large, plus de compréhension de lui-même, avoir une vue plus dégagée des autres et de soi-même. Donc, de ce point de vue, je trouvais que le thème sur le dépassement, c'était une manière d'englober finalement pour la psychanalyse vraiment ce qui se passe dans la thérapie. Et j'avais aussi envie de parler 2 minutes des rêves. C'est-à-dire que finalement, on n'en a pas souvent parlé, mais que les rêves, c'était une manière aussi d'être utilisé en psychanalyse pour justement conduire au dépassement. C'est-à-dire que sur cette dimension onirique, fantasmatique, eh ben, ces rêves permettent d'être déjà dans une direction de dépassement. Et c'est intéressant de savoir que les rêves, finalement, quand on rentre en analyse, quand on rentre en thérapie, on se met à faire des rêves tout à fait particuliers qui sont finalement des rêves qui vont nous accompagner dans notre travail de thérapeutique, dans notre travail analytique. Et évidemment, c'est intéressant que les patients nous livrent leurs rêves et eux aussi de pouvoir les travailler en séance, parce que c'est évidemment important que la personne n'écrive pas entièrement son rêve de manière figée en disant j'ai fait ce rêve, et puis ils nous lisent exactement précisément ce qu'ils ont fait, mais plutôt de le parler et de retravailler finalement le souvenir qu'ils ont de ce rêve, et aussi de faire des associations d'idées à ce moment-là, faire en sorte que ce rêve devienne aussi fécond et soit une manière de poursuivre la psychanalyse. Et par rapport au rêve aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, peut-être qu'on fera un thème sur le rêve d'ailleurs, mais c'est aussi de remarquer que souvent le rêve accompagne aussi l'évolution de ce dépassement. C'est-à-dire que, eh ben, on va s'apercevoir, au fur et à mesure que la thérapie se déroule, que les rêves vont être différents, un peu modifiés, et qui vont témoigner en fait de l'avancée du patient, et aussi, ils vont s'apercevoir que finalement, Les rêves vont parfois être une manière de témoigner de la résolution d'un certain nombre de conflits internes et inconscients. Voilà, bon, c'est un peu ça que m'avait évoqué ce thème comme introduction. Mais je passe la parole volontiers à Axel
Ok.
sur.
Alors, juste par rapport à ce que tu disais là, ça me faisait penser, ce que tu disais au début, ça me faisait penser à une phrase de Paul Éluard qui dit qu'il y a un autre monde, mais qu'il est dans celui-ci. Ce qui est un peu ce que les patients viennent chercher effectivement dans le dépassement de soi, l'espoir d'un autre soi en soi, qui est souvent pas aussi différents de ce qu'ils sont. Alors, le dépassement, ben évident hein, quand même, comme thème, ça m'évoquait dans un premier temps Saint-Exupéry, je ne sais pas si certains ont lu ou s'en souviennent, dans Terre des Hommes, à un moment donné, il parle d'un de ses copains qui se crache en avion dans la cordillère des Andes et qui marche pendant 3 jours. Et il conclut le chapitre en disant ce que Jean-Michel a fait. Aucun homme, aucune bête n'aurait plus jamais le faire. On n'aurait jamais pu le faire. Autrement dit, qu'il a fait preuve d'un élan vital. Finalement, on passe du dépassement à l'élan vital, si fort que ça lui a donné cette force, cette volonté d'aller au-delà de lui-même. Alors, effectivement, c'est ce que les patients viennent chercher, un dépassement d'eux-mêmes. Qu'ils viennent questionner également dans le transfert, ils viennent nous demander comment ça va être possible, est-ce qu'on leur donne la garantie qu'ils vont changer, qu'ils vont aller mieux, qu'ils vont devenir autres, qu'ils vont quitter leur névrose. Donc, évidemment, on doit soutenir cet hypothétique dépassement. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai aucune idée, hein, s'ils vont y arriver ou pas, mais il faut bien y croire. Parce que si on n'y croit pas, eux n'y croiront pas, et puis ils vont passer à autre chose, et puis ils iront voir un autre psy aussi. Donc il faut bien croire et soutenir ce désir du dépassement de soi. Alors, avec les patients, c'est principalement ça, ce qui revient. Et j'avais d'autres idées, mais qui m'échappent, et j'y reviendrai sans doute tout à l'heure. Parce que ça me reviendra certainement. Mais en gros, c'était surtout ça. C'était aller au-delà de soi-même, aller vers ce qu'on n'imagine pas. Oui, il y avait aussi l'éducation, le rapport à l'éducation ou avec les patients. C'est un peu. Enfin, Freud disait, la psychanalyse, c'est aussi difficile que de gouverner et que d'éduquer. Voilà, la psychanalyse, gouverner et éduquer sont les trois métiers impossibles. C'est sans doute lié au dépassement, c'est-à-dire amener l'autre à un stade qu'il ne connaît pas, qu'il n'imagine pas. Il y a l'idée de passeur de chez Lacan, d'aller un peu de l'autre côté, sur l'autre rive, sur un territoire inconnu. Et dans l'éducation, il y a effectivement à soutenir en permanence. L'enfant ou l'autre sur ce qu'il n'imagine pas. L'enfant qui n'arrive pas à prendre ses tables de multiplication, l'enfant qui n'imagine pas réussir à faire du vélo ou toutes ces petites choses qu'il va réussir à faire, mais à un moment donné, il s'imagine incapable d'y arriver. Et c'est par la confiance qui lui sera accordée, et en psychanalyse, enfin, dans le rôle du thérapeute, c'est un peu ça aussi, c'est la confiance que aveuglément on est capable de donner aux patients, que ça peut fonctionner, que ça peut fonctionner. Et puis souvent chez les patients, c'est un peu ça ce qui a manqué dans leur relation à l'autre, un défaut de confiance qui les a empêchés, qui a provoqué ces freins et ces incapacités. Donc il y a un peu l'idée de suppléer à tout ce qui n'a pas eu lieu dans leur vie jusque-là. Enfin, dans la mesure de ce qu'on peut faire, bien sûr. Voilà, donc le psy en tant que soutien du dépassement de l'autre, garant de cet espoir.
Moi,
Voilà, en somme.
J'aime bien aussi le quand tu as parlé de l'élan vital, parce que
Oui.
c'est que c'est aussi ce que la psychanalyse, bah, quand ça évolue bien, on va dire, permet de donner aux patients, parce qu'ils se retrouvent à ce moment-là détenteurs d'un. La capacité d'aller, d'avoir du désir, d'avoir une sorte de. Voilà, d'accéder au désir. Et ça, c'est tout à fait particulier. C'est vraiment ça, l'élan vital. Et je sais qu'une patiente que j'ai revue d'ailleurs sur Internet, sa photo et tout, une qui était vraiment depuis. 10 ans, qui était enfermée chez elle, bon, avec ses parents, hein, enfermée chez elle, qui restait en robe de chambre, qui venait uniquement à sa psychanalyse par semaine. Finalement, au bout d'un certain nombre d'années, mais ça a duré presque 10 ans peut-être, elle s'est mise, elle a eu cet élan vital qui lui a permis de sortir de chez elle, d'aller trouver du boulot, de devenir assistante dentaire, de trouver un copain. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'elle est en couple. Et donc, la psychanalyse, elle permet des choses comme ça. C'est vraiment passionnant. Alors, on donne la parole au philosophe, peut-être maintenant?
Allez.
Ben, le dépassement, moi, ça m'a fait d'abord penser à l'acte de philosopher. L'acte de philosopher, c'est une sorte de dépassement, précisément parce que c'est là où on va identifier une ou des problématiques, on va déconstruire finalement des idées. Où on va penser, pour reprendre l'expression de Sartre, contre soi-même, pour que des idées nouvelles finalement apparaissent et qu'on puisse se repenser. Donc, dans le fait de se repenser, il y a finalement l'idée d'un dépassement. Et puis, moi, le dépassement, du point de vue philosophique, il s'associe au fond à une notion métaphysique. On peut tout à fait voir par rapport à d'un point, enfin, la morale de Kant et la déconstruction de la morale judéo-chrétienne par Nietzsche et la notion de surhomme. Chez Kant, finalement, on se dépasse par la morale. C'est-à-dire que c'est précisément lorsque l'on prend conscience de cette obligation morale, c'est-à-dire de placer la loi morale au-delà de ses intérêts, de ses désirs, de ses intérêts particuliers, que l'on se dépasse au sens où on se raffine spirituellement et on tend vers une perfection et par là même on affirme l'humanité en l'homme. Donc on s'arrache au fond à un déterminisme naturel. Et le dépassement, il est précisément dans le fait de casser son ego, de contrarier sa nature, d'agir par devoir, c'est-à-dire du point de vue de la morale, et l'action n'est véritablement morale que si vraiment l'intention de la volonté est pure, c'est-à-dire que s'il y a vraiment cette volonté d'agir moralement le plus sincèrement possible. Et donc, finalement, dans ce rationalisme moral de Kant, eh bien, le dépassement se pense dans le fait de, on parle pas vraiment de Dieu, mais de tendre vers un idéal de perfection qu'on ne peut jamais atteindre puisque la métaphysique est impossible. Et pourquoi c'est une notion métaphysique? Parce que est-ce que la question qu'on peut se poser, surtout quand ça m'a fait penser quand on parlait d'élan vital, c'est que est-ce que véritablement la sensibilité le désir, lorsqu'on l'affirme, ne mène pas précisément à un dépassement. Et cette idée, elle est très explicite chez Nietzsche, où Nietzsche déconstruit la morale judéo-chrétienne, il déconstruit la notion de transcendance, particulièrement dans toute son œuvre, mais c'est très apparent avec la notion de surhomme dans Ainsi parlait Zarathoustra. Et au fond, celui qui est capable de se dépasser, c'est-à-dire celui qui deviendra le surhomme, c'est celui qui va comprendre les valeurs que amène Zarathoustra. Zarathoustra, qui est finalement le prophète, entre guillemets, des nouvelles valeurs, qui sont des valeurs de création, des valeurs d'art, des valeurs, au fond, qui vont à l'encontre de la raison, de cette conscience morale au sens de Kant, au sens de ce rationalisme moral. Et c'est celui qui non seulement va comprendre et va adhérer à la déconstruction de la transcendance, à la fin de la transcendance, mais qui va aussi se débarrasser, se libérer au fond de toutes les croyances et de toutes les illusions engendrées par la croyance en Dieu, au fond, pour Nietzsche. Et c'est en écoutant, en étant à l'écoute de son désir, de sa sensibilité, que véritablement le dépassement, et en étant capable de créer des valeurs, que le dépassement est possible. Donc ça dépend, enfin moi je pense que c'est une notion, en tous les cas du point de vue philosophique, qui s'apparente, enfin qui est très liée à la métaphysique, parce que au fond ce dépassement, il est par rapport à soi-même, mais il peut être aussi par rapport à Dieu, c'est-à-dire c'est soi-même aussi dans sa relation à Dieu, ou dans sa relation à un idéal de perfection chez Kant, que la notion de Dieu elle est plus complexe chez Kant. Je ne parlerai pas vraiment du Dieu, c'est une morale rationnelle. Donc, voilà, donc moi, ça m'a fait penser à ça. Je pense que le dépassement a une dimension métaphysique. Et cette réhabilitation du désir et de ce que vous appelez l'élan vital est proche de ce que dit Nietzsche, enfin, est en lien avec ce que dit Nietzsche. Comme quoi le désir, et même dans la création artistique, qui est un dépassement, la création artistique, eh bien, la sensibilité est aussi première. Donc, le dépassement, au fond, c'est pas nécessairement l'apologie de la raison, c'est pas nécessairement un dépassement qui ne peut être que moral au sens judéo-chrétien du terme. Voilà. Parce que ça m'a fait, parce que pour l'instant, ça m'a fait penser à ça. Bon.
Très bien. C'est une vision très positiviste du dépassement qui serait presque un objectif qu'on pourrait s'assigner. Parce que en se dépassant, on deviendrait meilleur, on deviendrait plus parfait, on deviendrait plus rapide.
Pas forcément. Pas forcément.
Moi, ce qui me frappe, c'est qu'au contraire, ce qu'on vit en ce moment, c'est l'inverse du dépassement. C'est-à-dire, c'est la réclusion, c'est la restriction des libertés, c'est la restriction des horaires, c'est la restriction du nombre de gens qu'on peut voir en même temps. Enfin, c'est tout sauf un dépassement, c'est plutôt un rétrécissement. Et donc, je pense que s'il faut militer pour le dépassement, ce à quoi je souscris, il y a énormément d'obstacles aujourd'hui dans les sociétés. Il y a des obstacles même à la démocratie. Enfin, tout ce qui constitue nos sociétés aujourd'hui, elles sont toutes marquées quand même depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, par une continuation des phénomènes d'urgence, de guerre, puisqu'on dit que maintenant la pandémie c'est une guerre. Donc, je serais plus sensible aux luttes contre le dépassement auxquelles on nous assigne aujourd'hui que de défendre en tant que tel le dépassement comme valeur.
Mais est-ce que tu ne penses pas, Joël, qu'au fond, aujourd'hui, on est davantage dans une répétition et que, au fond, le dépassement et la répétition, ce sont deux notions qui sont quelque part en opposition, puisque la répétition renvoie davantage, je pense, à justement l'acceptation de ses propres limites. Par exemple, l'habitude est une forme de répétition. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne nous contraint pas à même nier presque nos limites, ou nous confronter à ce qu'on pourrait penser être nos limites?
Oui, mais ce ne sont pas des limites qu'on se fixerait soi-même.
C'est ça le problème.
On nous fixe des limites.
On nous fixe des limites, absolument. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Absolument.
Que les sanctions sont constantes. Aujourd'hui, tu promènes sans justice, c'est 135 euros, par exemple. Et ça passe comme une lettre à la poste. La personne ne manipule contre ces restrictions qui sont des anti. Enfin, je ne sais pas quel est le contrat de dépassement, mais c'est... pour moi, c'est la restriction.
C'est la restriction, ouais. Un rétrécissement, et même le passeport sanitaire, c'est encore une restriction, si tu veux bien voir. On dévie un peu, mais si tu veux, le fait de porter atteinte à la liberté individuelle, puisqu'il va finir par s'étendre et qu'on sait pertinemment qu'il va s'étendre, à partir du moment où on touche la liberté individuelle, à partir du moment où on est dans la contrainte, on est dans la régression quelque part, on n'est pas dans le dépassement ou la répétition, j'aurais plus ça, la répétition.
Alors, Franck, Léa, est-ce qu'on peut vous dépasser ?
Vas-y Léa, vas-y.
Ah, merci. Par rapport à ce que vous avez dit là, sur la psychanalyse et le dépassement, je pense que le dépassement, ça va permettre de changer une peur qui paralyse en une peur qui va donner un mouvement. Et dans cette peur qui donne le mouvement, on va trouver justement un élan, et l'élan, il va permettre une prise de risque. Et quelque part, il y a le dépassement, il s'auto-nourrit, c'est-à-dire on a la peur qui paralyse, qui s'en va, il y a cette peur qui va donner le mouvement, il va y avoir l'élan vital, ça va permettre la prise de risque, et quelque part, le dépassement, ça peut nous permettre de comprendre où sont nos forces et nos ressources personnelles. Et tout au départ, ça peut être une peur profonde, un échec catastrophique, et ça peut être le point de départ du dépassement. Et le dépassement, c'est le sauveur quelque part. Et c'est en ça que, évidemment, quand on est complètement effondré et qu'on va voir un psy, bah, oui, il va nous lancer, le psy, je dirais, la bouée de sauvetage pour nous permettre de nous dépasser. Voilà, c'est juste ça. Et il y a cette sensation de peur au départ, et finalement, bah, on va se libérer, et après, ça s'auto-nourrit, et hop, voilà.
Alors, je voudrais rebondir d'ailleurs sur ce que tu dis, Léa, parce que je crois que même sans parler de peur, sans parler de relations psychanalytiques, en tout cas, ce n'est pas mon domaine et je ne saurais pas le faire, mais je crois que tout individu, déjà naturellement, avant même d'être dans la peur, il est dans la construction de ce qu'il doit être. Et donc, on est tous dépositaires d'un potentiel dans tous les domaines, affectif, professionnel, sportif, relationnel, enfin, il y a ce potentiel. Or, ce potentiel, vivre en potentiel, c'est pas un acte de vie. On ne peut pas fonctionner uniquement en disant « j'ai ce potentiel ». C'est pour ça d'ailleurs qu'à la limite, la notion que je ne saurais pas décrire, mais en tout cas, si on le ramène à la simple formule « je pense, donc je suis », effectivement, le fait de penser n'est pas dans l'acte de vie et donc ne donne pas cette capacité à être. Or, la finalité, je crois, de l'individu, c'est de transformer ce potentiel et l'aligner sur ce qui va le construire, ce qui va lui permettre de se réaliser, c'est-à-dire ce qui va lui permettre d'être. Et tu disais tout à l'heure que ça va donner un dynamisme. la peur, mais je crois que le monde, globalement, par rapport à un potentiel, c'est quelque chose d'absolument statique. Et quand vous, dans psychanalyse, vous parlez de désir, ce désir donne ce dynamisme malgré tout. C'est ça qui va permettre de passer d'un état à un autre état, jusqu'à l'arrivée de ce qui est la réalisation. Si ce parcours se fait sans peur, sans inquiétude et de façon naturelle, effectivement, ça va permettre à réaliser l'individu dans ce qu'il est. C'est peut-être la formule, c'est là aussi de façon très légère. Je reprends chaque mot. Je suis. Deviens qui tu es, le fameux mot de Nietzsche. C'est effectivement réalise ton potentiel dans ce que tu vas devenir en tant qu'individu. Et donc, c'est un objectif de vie, je pense, de se réaliser pour être, donc arriver à cet état d'être. Et le principe, c'est d'aligner son potentiel dans son acte de vie, pour reprendre ça, et donc c'est dans l'action. Donc, je pense qu'à partir de là, l'épreuve, il est difficile de se réaliser sans passer par une épreuve, c'est-à-dire passer dans un état où on est à l'aise, où on est en stabilité, à celui où on se met en danger pour être à nouveau ce qu'on va être. C'est-à-dire que, par exemple, quand on passe de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte, c'est vrai que ce sont des corridors qu'il faut franchir. Et à chaque fois, il y a toujours une part d'enfance, d'ailleurs, qu'on porte en soi et qu'il faut essayer de corriger pour la ramener à sa part d'adulte et de sa part de réalisation. Donc, je pense que l'épreuve induit ce dépassement, puisqu'à chaque fois, il faut trouver la force du dépassement pour changer d'état et se stabiliser à l'intérieur de cet état. Et ce dépassement va générer le changement et qui va nous permettre d'aligner justement ces deux états, celui du potentiel d'être à celui d'être tout court. Et ça, on le retrouve au-delà de ça. Alors, on ne sait pas si c'est l'épreuve qui va révéler le potentiel ou si c'est le potentiel qui fait qu'on porte ça en nous et qui va nous permettre d'aller à l'épreuve. Et ça, on le retrouve. C'est pour ça qu'on parle même d'épreuve dans le domaine du sport, qui est un peu plus mon domaine. C'est-à-dire qu'on parle d'épreuve sportive, c'est-à-dire le dépassement, les records à battre. Et quand j'ai battu un record hier, je dois battre un prochain record. Et le potentiel, par contre, c'est ce que je m'octroie moi. Par exemple, je n'ai jamais touché un club de golf. Je suis sûr que je suis un génie du golf. Et je me dis, quand j'aurai besoin de faire un peu de sous, il y a une place de Tiger Woods à prendre. Et peut-être qu'on va se révéler comme quelqu'un d'extraordinaire. Et le potentiel, c'est effectivement ce qu'on porte et qui est un petit peu éclipsé parce qu'on… Voilà. Et je pense que votre action en tant que psy, en tant que coach, en tant que philosophe, c'est de révéler à l'individu ou d'être capable, nous, en tant qu'individu, de se le révéler à soi-même. Cette façon de dire, effectivement, c'est au-dessus de moi, mais c'est accessible sans doute parce que c'est dans ma capacité théorique, en tout cas.
C'est une manière de ne pas accepter ses limites, c'est-à-dire d'aller au-delà, quelque part, de ses propres limites.
Oui, mais est-ce que ça, c'est parce que les limites qu'on pense être les nôtres, mais c'est
oui, c'est ça, les limites qu'on pense être les nôtres, absolument.
Et Axel, tout à l'heure, tu prenais effectivement l'exemple dans Vol de nuit, c'est Vol de nuit.
Hein, les hommes.
La terre des hommes, tu vois. Là. Non, mais c'est moi,
synthèque. Mais ils sont proches.
J'allais te parler du Petit Prince et tout, parce que je peux pas passer une soirée sans parler du Petit Prince, mais c'est pareil. Mais c'est vrai qu'on retrouve effectivement dans toutes les épreuves dramatiques, effectivement, on revient sur le thème récurrent de la Shoah, des épreuves qu'il y a eu dans les camps, qu'il y a eu dans les gens dans des positions extrêmes et tout. Et c'est impressionnant, moi, qui ai eu le privilège d'avoir des échanges avec des gens qui m'ont révélé leur histoire, c'est de voir finalement des gens qui sont des gens, des monsieur tout le monde, des monsieur tous les jours, des madame tout le monde, et arriver à dépasser effectivement et arriver à un acte qui est… Ils n'appellent même pas ça du dépassement. Ils me disent, on n'imagine même pas comment on a pu faire cette, telle ou telle chose. Et donc, ils ne parlent même pas de dépassement. Dépassement, c'est, pour eux, dans leurs yeux, quand ils m'en parlaient, effectivement, c'était se grandir et devenir quelqu'un de supérieur. Ce qui était en contradiction avec la notion de supériorité qui les combattait. Donc voilà, je vois ça un petit peu comme ça, moi.
Effectivement, pour rejoindre ce que disait Brigitte tout à l'heure, peut-être que dans le dépassement de soi, il y a un oubli de soi. C'est le point de vue kantien, si j'ai bien suivi. Enfin, une partie du point de vue kantien. Mais l'oubli de soi, l'oubli de l'ego, parce qu'il faut bien s'oublier pour aller plus loin. Oublier l'ego qui finalement est limitant.
Exactement.
Bon, j'ai bien suivi alors. Et sinon, il y a la phrase des bronzés qui résume peut-être un peu tout ça. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce.
Sur un malentendu.
Ça peut marcher. Sur un malentendu.
Il faut aller jusqu'au bout hein, dans la citation. Là.
Chantal.
Oui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est vrai, le dépassement. Alors, le dépassement, moi, ça me fait penser à une petite adolescente là qui vient et je me questionne un petit peu avec elle comment l'aider à dépasser une situation entre des parents séparés où elle se trouve sans arrêt ballottée à droite, à gauche, dans une impossibilité de choix. C'est-à-dire que sa vie se résume à une errance et elle ne peut absolument pas envisager un chemin. Alors effectivement, alors avec elle, le dépassement, ça s'inscrit dans l'idée de c'est temporaire. Bon, elle a 16 ans, hein. C'est temporaire. Bientôt, tu seras plus grande, une adulte autonome, et tu pourras faire un choix pour ta vie. Donc, c'est des dépassements très compliqués avec les adolescents. Très compliqués parce que leur cocon a explosé dans leur tête. Ils n'ont pas de repère. Voilà, c'est une errance permanente. Il y a des périodes comme ça qui sont compliquées. Donc, effectivement, alors là, on a un rôle de soutien, d'espoir, de dire, mais si, de toute façon, tu y arriveras, tu dépasseras tout ça et tu te réaliseras, en fait.
Ouais. C'est vraiment ce que Axel disait tout à l'heure dans la dimension transférentielle. C'est vraiment le transfert qui permet et qui nous permet... Quand on arrive à peu près à le connaître et à le maîtriser, qui nous permet de donner à ces patients, effectivement ces adolescents, peut-être justement on prend l'élan vital, mais en tout cas l'accès peut-être à un moment donné à un désir.
Il y a un truc intéressant, c'est en hébreu le mot épreuve, puisque j'évoquais tout à l'heure l'idée de l'épreuve pour se réaliser, il faut l'épreuve, donc dépasser une limite. En hébreu, c'est nissayon, il y a le mot nes, miracle à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le potentiel qu'on n'est pas capable d'atteindre, il faut quelque chose de miraculeux, c'est-à-dire notre énergie, notre force, notre sur, enfin, je sais pas, vous avec les appellations, mais de retrouver un petit peu cette idée du dépassement par quelque chose qui n'est pas palpable et qui n'est pas quantifiable. C'est-à-dire que finalement, c'est voilà, quelque chose qui nous porte. On l'appelle miracle si on est un peu comme ça, ou on l'appelle comme on veut, mais on peut l'appeler dépassement tout simplement. Voilà, qui pourrait être le synonyme de miracle.
Mais est-ce que dans le dépassement, ça, c'est une question surtout pour les psys, est-ce que dans le dépassement, il n'y a pas aussi l'idée de quitter peut-être un système dans lequel parfois on est figé de croyances profondes pour pouvoir se dépasser à un système plus flexible, c'est-à-dire où on va peu à peu déconstruire ces croyances profondes qu'on risque tellement elles sont ancrées en nous, d'élever en règle, en quasi-vérité. Bah. C'est une question que je pose en fait.
Dans le dépassement, tout ce qui t'emprisonne, je pense que...
Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas un des rôles, au fond, de...
Je pense que c'est...
Le psy n'amène pas à ça.
Je pense que c'est le transfert qui va permettre... qui va rendre ça possible. Et surtout, les choses, elles vont se faire progressivement. C'est-à-dire, contrairement à la série en thérapie où tout se passe, et c'était formidable, mais c'est plutôt en 5 ans pour nous. C'est-à-dire que très, très progressivement, les choses, grâce au transfert, les choses vont se déconstruire et se construire progressivement. Et moi, je prends souvent cette image quand je parle de ça, des constructions actuellement dans Paris notamment, où à la fois on garde la façade, on va en même temps déconstruire et construire l'immeuble. C'est absolument incroyable. Moi, j'ai fait ça dans un immeuble où j'étais, au cabinet où j'étais avant. C'est-à-dire que tu rentrais dans le chantier, tu avais la moitié de l'ancien immeuble qui n'était pas encore démoli et déjà le nouvel immeuble qui commençait à gagner et à déconstruction et construction en même temps. Et je trouve que ça symbolisait bien finalement le travail psychanalytique et thérapeutique. C'est-à-dire que les choses se font très, très progressivement. Presque, j'aurais envie de dire presque à notre insu. Bon, nous, on a un peu l'habitude.
Donc oui, c'est ça.
On le perçoit, mais en tout cas, à l'insu du patient.
Du patient.
C'est-à-dire ce qui, d'ailleurs, évite de mettre trop de résistance à ce changement, parce qu'il ne s'en rend pas compte. Du coup, ça se fait plutôt assez tranquillement, tout doucement, à la fois cette déconstruction et cette construction, cette reconstruction.
Les patients, parfois, le soulignent. Ils viennent au bout de X mois en disant « mais je ne comprends pas, on n'avance pas, il ne se passe rien ». Et on leur dit « mais si, regardez tel et tel et tel et tel point qui ont changé ». Ils disent « ah, c'est vrai, effectivement, ça a bien bougé ». Mais avant qu'on leur signifie, ils ne s'en sont pas rendus compte. Ce qui met en évidence cette lenteur du processus. Et le fait que ça avance d'un mois, mais ils ne s'en rendent pas forcément compte. Et on est là pour être vigilant.
Un processus lent, mais immuable. Et pour moi, c'est comme un...
Pour que ce soit solide, oui.
C'est-à-dire que si la thérapie, elle se continue avec la persistance des séances et sur le temps et tout, c'est comme un tapis roulant qui avance. C'est presque immuable. C'est-à-dire que cette déconstruction-construction se fait.
Et c'est vrai, ça se fait même à l'insu du patient. Moi, très souvent, les patients me disent « mon mari trouve que j'ai changé hein. ». C'est-à-dire, le mari lui dit a changé et elle s'en rend pas compte.
Avec l'extérieur, les gens autour s'en rendent compte.
C'est ça.
Absolument. On va donner la parole à Israq, si vous êtes d'accord. Pour respecter à peu près les horaires.
Je vais revenir sur déjà deux points que tu as dit, Chantal, et aussi Joël. Montrer que, attention, je ne sais pas, tu as parlé du problème avec l'adolescente qui est dans une situation un peu difficile et qui est en attente de devenir plus grande et de pouvoir prendre ses propres avis en main et se dépasser. Et Joël, tu as exprimé le fait de voilà, on est dans une situation plus de restriction que de dépassement. On va montrer que le dépassement peut avoir lieu même dans les limites. Même lorsqu'on est dans une situation limitée, eh bien, on va montrer que le dépassement peut avoir lieu et on va montrer au contraire que c'est justement un vrai dépassement, eh bien, il peut se faire dans n'importe quelle situation, même dans une situation qui est limitée. Et c'est ça la grandeur du dépassement, c'est que le dépassement, ce n'est pas « je fais tout et n'importe quoi » dans une organisation, c'est en même temps tenir une certaine restriction et dans ces restrictions, eh bien, avoir un dépassement. C'est lié, en fait, on va expliquer, ça va être lié le fini et l'infini en même temps. Et aussi, Franck, aussi, on va parler de ce que tu as parlé à propos du potentiel. Dévoiler son potentiel et quelle est la partie du potentiel qui se trouve à l'intérieur de nous qui nous permet ce dépassement. Voilà. Alors je vais commencer par déjà... un petit paragraphe de la Agada, c'est bientôt des Sartres. Donc, dans la Agada, dans la partie où on raconte la sortie d'Égypte, On a bon, d'abord les questions, le Manishtana, c'est les quatre questions. Après, on a un paragraphe qui nous dit que voilà, on était esclaves en Égypte et si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on aurait été encore là-bas. Après, on a un autre paragraphe qui vient juste après et qui nous dit voilà le verset sur lequel il faut se baser, le verset de base. C'est un sage Ben Zoma qui l'a trouvé, sur lequel on doit se baser. Lequel on apprend qu'il faut parler de la sortie d'Égypte tous les jours. Et donc, la Agada raconte, elle dit, voilà, le verset, c'est « Leman tiskor, afin que tu te souviennes, et etc., du jour de ta sortie, Meret Mitzrayim, de la terre d'Égypte, kol yeme chayera, tous les jours de ta vie. » Voilà le verset, il y a un verset dans la Torah qui dit qu'il faut se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Viennent les sages, et les sages posent une question. Pourquoi le verset dit tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie? Il aurait été suffisant de dire tu te souviens de la sortie d'Égypte les jours de ta vie. On comprend que c'est tous les jours, c'est les jours de ta vie. Pourquoi rajouter le mot tous les jours de ta vie? Alors, si la Torah, la Gada rajoute le mot tout, c'est pour nous dire que même lorsque le Messie viendra, même lorsqu'il y aura le Mashiach. Et donc là, on va rentrer dans une époque messianique où les miracles qui se dérouleront à ce moment-là seront même beaucoup plus importants que les miracles de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire la sortie d'Égypte, ça sera tout simple par rapport aux miracles qu'il y aura lorsque Mashiach viendra. Et bien, même à cette époque-là, on devra se souvenir de la sortie d'Égypte. Alors là, il y a une grande question. C'est que, a priori, la sortie d'Égypte, elle va être banalisée. Pourquoi on a besoin de se souvenir de la sortie d'Égypte? Même lorsque Mashiach, a priori, on devrait plus se focaliser sur la délivrance actuelle, celle de Mashiach, plutôt que la première délivrance, qui va être plutôt banalisée par rapport à la nouvelle, la délivrance véritable et complète. Alors, la réponse à ça, c'est quoi? C'est que, en hébreu, la sortie d'Égypte, ça se dit Yetziat, ça veut dire la sortie, Mitzrayim de l'Égypte. Yetziat Mitzrayim, ça veut dire la sortie d'Égypte. Le mot Mitzrayim, en changeant les voyelles, il peut se lire également Metzarim. Metzarim, ça veut dire les frontières, les limites. Sortir d'Égypte spirituellement, ça veut dire sortir de ses limites. Sortir de ses frontières. Ça veut dire que ce qui était avant pour moi inaccessible, le niveau que je n'arrivais pas à atteindre, que je n'arrivais pas à faire, eh ben, je vais me surpasser, je vais me dépasser. Ce qui était avant une limite, eh bien, je vais dépasser cette limite-là et je vais pouvoir l'atteindre. Et cette idée-là, de dépasser les limites, de se surpasser, ça sera un sujet qui sera toujours actuel. Même lorsque ma chair viendra, il y aura toujours cette idée de la sortie d'Égypte dans le sens de sortir de ses limites, sortir de ses frontières. Et donc, c'est en cela que la sortie d'Égypte sera toujours actuelle, même quand Mashiach viendra. C'est tellement important le sujet de sortir de ses limites que quand Dieu se présente, la présentation de Dieu au moment du don de la Torah, Dieu il va choisir... Il choisit son peuple. Et la première chose pour donner la Torah, c'est « je me présente ». Dieu il se présente avec le premier commandement. Il dit « je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Mais il n'y aurait pas eu une meilleure présentation. On aurait pu, Dieu il aurait dû normalement se présenter différemment. « Je suis le Créateur, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est moi le Créateur. » Puisque on est bien d'accord que la création du monde, c'est quelque chose qui montre beaucoup plus la grandeur de Dieu, puisque le monde a été créé à partir de rien, que la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, bon, bah, Dieu a utilisé le monde qui était déjà là, et avec ça, il a fait des miracles, il a mis de côté les lois de la nature, et il a arrangé les choses pour que ça se passe comme il le souhaitait. Il a utilisé quelque chose qui existe, et il a transformé l'existant. Alors que dans la création du monde, on a vraiment une création ex nihilo, ça veut dire à partir de rien, eh bien, une création. Et donc, ça aurait été peut-être mieux que Dieu se présente, je suis l'éternel Dieu qui a créé le soleil et la terre. Et finalement, non. Finalement, non. Comment Dieu se présente? Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est pour c'est la première chose, le premier message que Dieu il veut nous transmettre, c'est l'idée du dépassement. Ça veut dire que moi, je suis celui qui t'a fait sortir de tes limites. Sortir d'Égypte, ça veut dire sortir de tes limites. Ça veut dire que tu as la possibilité eh bien, de se surpasser. D'ailleurs, dans la Haftara qu'on lit Shabbat avant Pessah, c'est-à-dire le Shabbat Agadol, cette année, c'est Pessah suit juste après Shabbat, c'est Pessah. Shabbat, c'est samedi soir. Pessah, c'est à la sortie de Shabbat. Eh bien, dans l'Aftara, qui est l'Aftara spéciale du Shabbat Agadol, du grand Shabbat, le Shabbat juste avant Pessah, là-bas, il y a un verset, c'est marqué Ouritem. Vous allez voir Ben Tzadik et Racha. Entre un Tzadik, vous allez voir la différence entre un juste et un méchant, entre un Obed Elohim, entre quelqu'un qui sert Dieu, Ben Loa Abado, et quelqu'un qui ne sert pas Dieu. L'Amour Hazaken explique ce verset. Il dit, mais quelle est la différence entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne sert pas Dieu? Quelqu'un qui ne sert pas Dieu, c'est quelqu'un qui suit sa nature et qui reste dans son habitude. Il fait dans son habitude, il ne cherche pas à se surpasser. Il fait un service de Dieu qui est monotone. Il ne va pas chercher à aller plus loin. Il ne va pas chercher à réaliser chez lui la sortie des limites. Ce n'est pas pour rien que ce verset-là, il est juste avant ça. Parce que justement, on doit se préparer à sortir d'Égypte. Et c'est pas pour rien aussi que le verset qui parle de la sortie d'Égypte, il dit que cette sortie d'Égypte, elle doit avoir lieu tous les jours. Parce que chaque jour, on doit essayer de se dépasser. Et comme on a dit que chaque jour, on est une nouvelle créature, on avait déjà parlé dans les paramètres précédents, que si Dieu il a fait qu'on dort et qu'on se réveille, c'est un arrêt pour être quelqu'un de nouveau, pour pouvoir se dépasser et faire des choses qui sont sans aucun rapport avec les journées précédentes. Et la Nourazakel ramène le Talmud qui donne un exemple de quelqu'un qui loue un âne, qui loue un âne pour un certain trajet. Et le prix pour louer l'âne, la location de l'âne pour faire un trajet, alors le trajet c'est 10 parsas, 10 parsas ça fait à peu près 40 km. Ça coûte un zouz. Un zouz, c'est la monnaie de l'époque, un zouz pour faire 40 km avec le même. Si tu veux faire 44 km, c'est-à-dire que tu rajoutes une parsa de plus, donc 10% de plus, quel est le prix? Le prix, ce n'est pas 1,1 zouz, c'est pas ça. Le prix, c'est 2 zouz, le double du prix, alors que tu n'as simplement rajouté qu'un dixième de la distance. Alors, pourquoi le prix il est doublé? Parce qu'en fait, tu as changé l'habitude de l'animal. L'animal, il a l'habitude de faire ce trajet-là. C'est son habitude. Lorsque tu vas lui demander de parcourir une distance qui est inhabituelle, tu vas occasionner chez lui un véritable effort, un véritable dépassement de ses limites. Et pour ça, ça mérite de doubler le prix de la location. Et donc, à l'image de cet exemple de la Gemara, on a une autre du Talmud, on a aussi un autre exemple. C'est que on dit que quelqu'un qui sert Dieu, quelle est la différence entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne sert pas Dieu? Quelqu'un qui ne sert pas Dieu, il va réviser son cours 100 fois. Quelqu'un qui sert Dieu, il va réviser son cours 101 fois. À l'époque, ils révisaient 100 fois leur cours. 101 fois, c'était déjà un travail beaucoup plus important. Profondément, pourquoi 100 fois c'est considéré comme habituel et 101 fois, là, c'est un véritable effort. Ça s'appelle vraiment quelqu'un qui fait un effort, qui se dépasse, qui sert Dieu. Parce que 100 fois, ça correspond à nos forces intérieures. On sait que dans notre âme, on a 3 forces intellectuelles et 7 forces sentimentales. 3 et 7, 10. Et chacune de ces forces, elle est subdivisée en 6 mini-forces. Donc les forces s'imbriquent les unes aux autres, ce qui fait que il y a 10 forces, on va dire, principales, qui sont chacune subdivisées en 10, ce qui fait 100. Et donc, servir Dieu avec le chiffre 100, c'est servir Dieu avec ses propres forces, ses forces intérieures, les forces de notre âme, ça veut dire avec les capacités qu'on a, mais sans aller chercher plus loin que cela. Servir Dieu à la ressemblance du chiffre 101, c'est aller chercher plus loin que ses forces intérieures, c'est aller chercher ce qu'on appelle une force, on va en parler tout de suite, qui est la force qui nous permet de nous dépasser, d'avoir ce qu'on appelle une abnégation de soi-même, ça veut dire faire en hébreu ce qu'on appelle le mesirut nefesh, se mettre de côté pour se mettre de côté soi-même, on en a parlé, pour arriver à se surpasser. Et ce niveau-là de l'âme, on va détailler tout de suite, ça correspond à la 101e fois. Ce ne sont pas des forces qui sont habituelles, on a l'habitude d'utiliser nos forces de l'âme qui sont à l'intérieur de nous, mais c'est quelque chose qui nous... On va faire appel à une force qui nous dépasse. Pour pouvoir comprendre ça, on va expliquer le premier verset du schéma Israël. Dans le schéma Israël, la prière qu'on fait le matin et le soir, on dit « Ve'ahavta » et tu aimeras « Et Hashem Elokecha » donc l'Éternel ton Dieu. Et on donne trois choses, trois termes. « Bechol levavcha » de tout ton cœur, « Bechol nafshecha » de tout ton âme, et après « Frol me'odecha » de toutes tes forces. Ces trois façons de voir les choses, ça correspond à trois façons de servir Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aimer Dieu avec toutes les forces qu'il y a dans ton âme. C'est comme le service de Dieu qui correspond au chiffre 100. Ça correspond, on sait que notre âme est divisée en 5 niveaux. Il y a 5 niveaux dans l'âme. Il y a trois niveaux qui se trouvent à l'intérieur de nous. Il y a un quatrième qui nous transcende, qui nous dépasse, mais qui a quand même un lien avec nous. Et un cinquième niveau qui nous dépasse encore plus, qui est attaché complètement à Dieu, mais qui est en rapport avec nous, mais qui nous dépasse beaucoup plus que le quatrième niveau. Lorsqu'on dit que tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, on parle du service de Dieu, de ces trois premiers niveaux de l'âme, qu'on appelle en hébreu « nefesh », Rouach et Neshama, les trois premiers niveaux de l'âme qui se trouvent à l'intérieur de nous. Donc ça va être un amour de Dieu qui est avec nos propres forces. Après vient un deuxième niveau. Tu aimeras Dieu de toute ton âme. Lorsqu'on dit de toute ton âme, alors là on parle du quatrième niveau de l'âme qui s'appelle Chaya. C'est un niveau qui nous transcende, mais qui est en rapport avec nous. On donne un exemple pour bien comprendre cette idée-là, l'exemple matériel qu'on donne pour s'imaginer quel est ce quatrième niveau, c'est l'exemple des habits. Les habits, ça nous entoure, mais c'est quand même à notre mesure. Et après vient le cinquième niveau, qui est tu aimeras Dieu de toutes tes forces. Et là, ça correspond au niveau le plus élevé de l'âme, qu'on appelle le niveau de Yechida. C'est un niveau qui est complètement uni avec Dieu, et qui nous transcende complètement. Alors, l'exemple matériel qu'on donne pour donner un aspect matériel pour pouvoir comprendre quel est ce cinquième niveau, c'est l'exemple d'une maison. On peut mesurer 1m80, 1m90, bon, on peut habiter soit dans 500 mètres carrés, dans un château, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la taille de la personne, ou alors son intelligence, peu importe. C'est-à-dire que c'est complètement quelque chose qui le transcende complètement. Ça, c'est un peu cette même idée de ce cinquième niveau-là, qui est aimer Dieu de toutes tes forces. Et c'est dans ce niveau-là, aimer Dieu dans toutes tes forces, qu'on fait appel à ce niveau le plus haut de l'âme. Et c'est là que je reviens, Franck, à ce que tu disais de son potentiel. le potentiel le plus haut d'un juif, eh bien, il va pouvoir être réveillé de la façon la plus forte en réveillant ce niveau le plus haut. Alors, la question toute simple, c'est que comment on fait ? Comment on fait pour réveiller ce niveau ? Comment on fait pour servir Dieu vraiment de toutes ses forces et réveiller ce cinquième niveau de l'âme ? Et là, pour ça, la Torah l'a tout prévu, parce que dans la Torah aussi, de la même façon qu'il y a cinq niveaux dans l'âme, il y a également cinq degrés dans la Torah. Dans la Torah, il y a le sens simple, qui correspond au premier niveau de l'âme. Il y a le sens allusif, où il y a les allusions de la Torah, qui correspondent au deuxième niveau de l'âme. Il y a le commentaire, qui correspond au troisième niveau de l'âme. Après, il y a la partie secrète. Et là, on est dans l'amour de toute ton âme. C'est la partie qui nous transcende déjà. C'est le quatrième niveau de l'âme, c'est le secret. Les secrets de la Torah. Et il y a le cinquième niveau qui correspond, c'est les parties les plus profondes de la Torah et qui réveille les parties les plus profondes de l'âme. C'est donc la chassidoute, les parties les plus profondes de la Torah, les parties de la chassidoute qui vont dévoiler les parties les plus profondes de l'âme et qui vont déclencher chez nous cette force-là de se dépasser. Et maintenant, donc là, on comprend, là, c'était pour bien développer cette idée de la source, que voilà où on peut toucher notre... En étudiant les parties les plus profondes de la Torah comme on étudie maintenant, eh bien, on va toucher les parties les plus profondes de l'âme, on va pouvoir arriver à déclencher ce dépassement-là. Et maintenant, je veux revenir avec la contradiction qu'on avait vue avec Joël, avec Chantal, que des fois, se dépasser, des fois, dans certaines situations, des fois, ça peut être compliqué. Alors, il faut savoir une chose, que les sages nous expliquent. Servir Dieu de toutes tes forces, ça veut dire « Bechol Meodera ». Les sages donneront un autre commentaire. Servir Dieu de toutes tes forces, ça veut dire servir Dieu « Bechol Mida ». Avec chaque qualité que Dieu va te donner, tu vas utiliser toutes les qualités que Dieu va te donner, et avec toutes les qualités que tu vas servir Dieu. Le mot qualité, il se dit en hébreu mida. Quelqu'un qui a des bonnes midot, c'est quelqu'un qui est gentil, qui a des bonnes qualités, qui est agréable, c'est quelqu'un qui a des bonnes qualités sentimentales. Ça, c'est le mot mida. Mais en hébreu, le mot mida veut dire également une mesure. Quelque chose qui est mesuré. Ce qui veut dire que même dans une limite, on peut amener l'illimité. Dans le même mot qui veut dire dans toutes tes forces, tu vas te dépasser, dans le même mot, on a le commentaire des sages que tu peux servir Dieu avec toutes tes qualités, ça veut dire avec toutes tes limites. Et c'est justement là qu'on montre l'infini de Dieu. L'infini de Dieu qui va s'exprimer à travers nous. Lorsqu'on va justement se dépasser, se surpasser, c'est pas un dépassement où allez j'arrête tout, je sais plus rien, ou je fais tout et n'importe quoi dans une façon complètement désordonnée, sans organisation. Non, je peux dans les contraintes actuelles ou dans la situation familiale qui peut être des fois contraignante actuelle, dans les limites du monde telles qu'ils sont actuelles, amener les limiter. Et c'est ça vraiment le vrai sens de dépassement. Et c'est ça le vrai sens de... Si on disait que Dieu était illimité parce qu'il peut tout faire et qu'il peut faire que l'infini, ça serait le limité. Dire que Dieu il peut faire l'infini et il peut faire aussi du fini et qu'il peut même réunir l'infini et le fini en même temps, ça c'est pour montrer, ça montre le côté de l'infini de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucune limite. Et donc ce qui veut dire que même dans notre vie, dans notre dépassement, il peut s'inscrire dans les limites du monde et dans les contraintes du monde et dans les contraintes de la vie actuelle. Et donc, c'est ça l'enseignement, voilà, quand on se prépare à la sortie d'Égypte. L'enseignement, c'est que l'idée du dépassement, personne n'est... C'est l'idée de la sortie d'Égypte qui n'est pas simplement valable une fois par an à Pessah, mais c'est tout ce qui est valable pour tout le monde, chacun dans chaque situation dans laquelle il est. Et chaque jour de la vie, on a la possibilité de se surpasser par le fait que Dieu il voit que nous on fait des efforts et qu'on n'essaie pas de se contenter du minimum mais qu'on essaye d'aller toujours au maximum. Alors on dit Dieu il se comporte à la ressemblance de comment nous on se comporte, que même s'il y a des fois des choses qui peuvent être dérangeantes ou limitantes, qui va limiter Dieu à faire venir le Machiav, et donc Dieu aussi va se surpasser, Dieu aussi va se dépasser et va nous amener la délivrance rapidement avec Machiav.
Je voudrais répondre, rebondir sur ce que tu disais d'ailleurs. Tu disais quand il se présente en tant que Dieu qui a fait sortir les Juifs d'Égypte. Et tu faisais la comparaison avec le fait qu'on aurait dû dire il est créateur du monde. Et c'est vrai que je pense que si on se met sur ce terrain, on considère que Dieu crée le monde dans son potentiel, en fait, justement dans sa manière passive, où l'homme est passif, puisque finalement, on nous présente Adam et Ève dans le Gan Eden comme des gens qui vivent de leur quotidien. Il suffit de tendre la main pour manger. Donc, il y a une forme de passivité. Et c'est vrai qu'après toutes les épreuves des différents patriarches, de leurs fils, des fratricides, des meurtres fratricides, de tout ce qu'on a vu, de toutes les mésalliances, la sortie d'Égypte, qui Égypte se dit Misraïm, je crois qu'il y a au-delà de sortir des limites, le mot limite dont tu as employé, on parle aussi d'étroitesse, je crois, dans le mot Misraïm, hein, et étroitesse. Et en fait, il crée les conditions de la réalisation, finalement, de l'individu, sortir de l'étroitesse, donc du monde passif. Et finalement, c'est le moment où il crée le fait de faire peuple. En fait, quand c'est à ce moment-là qu'on parle de peuple et c'est à ce moment-là qu'on parle d'unité. Et pour reprendre ce que tu disais, Joël, tout à l'heure, tu disais effectivement qu'il y a une restriction de liberté par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et le pire de tout ça, c'est qu'on est dans l'acceptation malgré nous, même quand on joue les forts en gueule, on accepte finalement de ne pas bouger, on accepte le masque, on accepte toutes ces contraintes et tout. Mais en ce moment, c'est vrai qu'il y a un principe, un mot très à la mode en plus, qui m'agace, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est le mot intersectionnalité aujourd'hui. C'est un truc qui revient à toutes les sauces. Et en fait, cette intersectionnalité, on peut considérer que c'est les valeurs communes à tous les individus dans différents pays qui permettent de faire société et donc qui permettent justement, en posant le principe de non-liberté absolue à l'autre, c'est en fait rester dans le cadre des libertés acceptables pour les autres, pour les uns par rapport aux autres. Et donc, c'est faire peuple, et c'est peut-être là-dessus qu'il joue, et c'est peut-être là-dessus qu'on se fait piéger, nous, en tant que citoyens, qui avançons la tête basse en acceptant finalement toutes les mesures, les unes plus contraignantes que les autres.